Et c'est Charles que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, Charles.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Merci beaucoup. J'ai pris votre émission il y a peu de temps en cours et j'ai entendu le témoignage de Jérémy, c'est ça, hein? C'est Jérémy, je crois.
Oui, tout à fait.
Voilà. En fait, j'habite sur Meaux, la banlieue parisienne, dans 77, et je voulais passer un message particulièrement aux personnes qui sont addicts, qui sont malades alcooliques, parce que moi-même, je le suis, on l'est. À vie, on va dire, ça a commencé par on va dire, des repas festifs, des repas d'affaires, etc. Et puis, au fur et à mesure, j'ai plongé dans la boisson alcoolique et je n'arrivais pas à m'en sortir.
Est-ce qu'il y avait une raison particulière à ce moment-là dans votre vie, une épreuve, quelque chose qui vous a un peu affaibli?
Alors, j'en étonnais plus d'un et plus d'une. J'avais une vie tout à fait normale, épanouie.
Ah oui.
J'ai des enfants. À cette époque-là, ils étaient jeunes. Ils avaient, quand j'ai commencé à être malade, vraiment, c'est-à-dire à avoir un alcool solitaire, la bouteille dans la voiture. J'allais pas au bistrot, au bar. J'avais honte. Et donc, je me cachais pour consommer, pour boire.
Ouais,
mais il n'y avait pas de mal-être. À l'origine, il n'y avait pas de mal-être.
Mais
il y avait,
vous le dites très bien, quand j'ai commencé à être malade, c'est-à-dire vous êtes passé de l'alcool convivial à la,
oui,
à la maladie.
Oui, absolument.
Parce que c'est une maladie, on ne le répétera jamais assez.
Oh, c'est une maladie, tout à fait. Ouais. Ça se soigne, il n'y a pas de médicaments magiques ou de remèdes magiques. Il y a un corps médical, il y a des groupes de parole qui sont là pour aider les malades à s'en sortir.
On est bien d'accord que quand on dit, comme semblerait le dire Jérémy, vous n'avez qu'à vouloir arrêter pour arrêter, c'est une aberration.
Absolument. Oui. La volonté, il y a une part de volonté, mais il y a surtout une part de motivation.
Oui,
il faut se mettre des motivations en place. Et puis je pense que chacun a ses limites, touche le fond. Moi, j'ai touché le fond à un moment donné. Je me voyais complètement mourir. Les gens se séparaient de moi.
Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Comment ça s'est passé dans votre couple et dans votre famille à ce moment-là? Parce que se cacher dans la voiture, ça va un moment, mais après?
Bah après, le monde qui vous entoure n'est pas stupide. Mmh. On a l'impression que ça se voit pas, mais ça se ressent, ça se voit. Il y a plein de gestuels, c'est tout un état qui pour nous est normal, dans la vie sociale, tout le monde s'en rend compte.
C'est important ce que vous dites là, parce qu'effectivement, beaucoup de gens qui souffrent d'alcoolisme, on se dit non, mais ça se voit pas finalement. Je suis sûr
que ça se voit pas, mais non, c'est un leurre. C'est un leurre. On est en fait, on se cache, on dit ça se verra pas, personne va s'en apercevoir. Je prends un chewing-gum ou tout n'importe quel remède pour essayer d'avoir une bonne haleine. Mais on a les yeux qui brillent, on a une élocution qui est hachée, exactement.
C'est se cacher derrière son petit doigt, comme on dit. Quoi.
Exactement, voilà, tout à fait. Mais il y a des raisons. Moi, au départ, pour répondre à votre question, Sabine, j'avais pas de mal-être, j'avais pas de raison. Il y a certains qui ont eu des électrochocs à cause de malheurs dans la vie. Perte d'un proche, de boulot, une succession de mauvaises nouvelles. Mm-hmm. Moi, j'étais en couple, j'ai des jumeaux. J'avais un boulot qui marchait très bien, le salaire rentrait. J'avais un trop-plein d'émotions.
Ah oui.
Ouais, j'avais un trop plein d'émotions. J'ai l'impression de ne pas, j'avais un bonheur que je ne pensais pas avoir et je ne pensais pas
mériter. Ouais, c'est ça que j'entends. Mais ça, vous voyez, quand je vous dis, ça vient quand même de quelque chose. C'est même quand on a une vie merveilleuse, il y a forcément quelque chose qui s'est passé dans le passé pour qu'un jour il y ait un déclic comme ça et pour que vous ayez l'impression de ne pas mériter. Ça vient forcément de votre éducation, de quelque chose du passé. Parce que pourquoi est-ce qu'on... Qui juge de ce qu'on mérite ou ce qu'on ne mérite pas?
Exactement.
Et pourquoi vous ne mériteriez pas le bonheur?
Et voilà, donc c'est un sentiment dans lequel on ne trouve pas de solution. On se pose cette question-là qui est universelle et puis, en fin de compte, on s'efface derrière.
Est-ce que, par exemple, vous pensez vous être dit, plus ou moins consciemment, ce bonheur, il faut que je le paye, ça se paye toujours un jour?
Alors, j'ai fait quelques séances de psychanalyse avec quelques psychiatres, même si je ne suis pas forcément très réceptif à ce genre de méthode. Mmh. Et c'est des questions qui revenaient à chaque fois. Et j'ai l'impression de ne pas mériter ce bonheur. Mais c'est en fait, dans le groupe de parole dans lequel je suis, je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom.
Bon, allez-y, si ce n'est pas pour
C'est Vie Libre. Non, c'est Vie Libre. C'est une organisation nationale, enfin, c'est une association de loi de 1901, comme les Alcooliques Anonymes, comme d'autres groupes de parole, comme la Croix d'Or et d'autres, mais sauf qu'on accueille aussi l'entourage, parce qu'on fait des dégâts collatéraux, et on ne s'en aperçoit pas quand on est dedans.
Quand vous dites « j'avais tellement l'impression de ne pas mériter le bonheur », tomber dans l'alcoolisme, c'est se détruire et c'est casser ce bonheur et c'est casser le bonheur de ceux qui nous entourent aussi.
C'est de l'autodestruction et on entraîne et se dire tu vas venir avec moi dans mon autodestruction presque. C'est assez compliqué. Je me détruisais, mais en fin de compte, quand j'étais dans la boisson, je n'avais pas cette impression de me détruire. J'étais pas dans l'autodestruction. À un moment donné, à la fin de mon alcoolisme, oui, je l'étais. Parce que je ne voyais que par la bouteille. C'était ma maîtresse, ma femme, c'était tout. J'ai perdu mon job, j'ai dû vendre ma maison, j'ai fait pas mal de dégâts autour de moi. Mais ce qui comptait, c'était que la bouteille. Et c'est un voisin qui est devenu abstinent quelques années avant moi, qui m'a dit, Charles, t'as un problème, foutu de la boue, foutu sort du déni, et t'ailles voir le corps médical et un groupe de parole.
Vous aviez l'alcool comment, vous ?
Oh, j'étais soft. Oh, j'étais très... j'étais pas violent. Je suis pas non-violent, moi. D'accord. Donc, je m'endormais. J'étais seul dans mon coin. J'étais plutôt même très romantique. Enfin, j'avais l'alcool, le bon côté, si on peut dire cette expression.
D'accord, vous n'avez pas l'alcool mauvais, comme on dit.
Ah non, je n'étais pas agressif. J'ai jamais levé la main sur mon ex-femme, sur mes enfants, ou même chercher la bagarre ou autre. Non, je m'assommais tout seul dans mon coin et je voulais qu'on puisse la paix.
Comme pour vous extraire de votre monde, finalement.
Exactement, je cherchais une bulle à m'enlever du moment instantané, de me détacher du monde.
De ce monde que vous pensiez ne pas mériter.
Entre autres, ouais, tout à fait.
Et donc ce voisin s'en rend compte. C'était plus qu'un voisin, j'imagine, c'était un copain.
Oui, c'était devenu un ami. Un ami. Et il m'a tiré. En fait, moi, je voulais pas, je refusais. J'étais dans le déni à cette époque. C'était en 2009. Et il m'a forcé. Il m'a dit, viens voir une fois. Tu porteras ton jugement. Tu viendras peut-être une deuxième. Tu viendras peut-être pas. Mais viens une fois. Et j'ai rencontré des malades alcooliques, j'ai rencontré de l'entourage, j'y suis allé une fois, deux fois, et puis ça fait 12 ans que ça dure.
Ah oui.
J'y vais toutes les semaines.
Et est-ce que vous aussi, ça vous a permis d'aider d'autres personnes, de tendre la main ?
Ben, je vais vous répondre très franchement, j'étais un patient, entre guillemets, en poussant cette porte de l'association. Et je vais devenir responsable de la section de Seine-et-Marne.
Ah, c'est formidable ça. Bravo. Bravo à vous, Charles. Quelle belle résilience, quelle belle évolution.
C'est pas un aboutissement, mais c'est un chemin. C'est un chemin. C'est-à-dire que sans eux, je pense que je n'aurais pas trouvé la voie de la sérénité. Je n'aurais pas. En fait, ils m'ont tendu une main. Enfin, j'ai tendu la main, ils ont su la réceptionner. Et j'avais l'impression d'avoir été compris tout de suite. Ils m'ont écouté, ils m'ont compris.
C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Jérémy tout à l'heure, quand on rencontre des gens qui comprennent.
Et il faut être dedans pour...
Il faut être dedans pour comprendre. Et c'est la première étape extrêmement importante, la plus importante.
Déjà, tout à fait, c'est aussi de sortir du déni. Moi, je l'étais pendant 2 ou 3 ans, j'ai fait plusieurs cures. Et la cure est un bon moyen, mais il faut la décider. Il faut être volontaire.
Qu'est-ce que vous appelez le déni, par exemple ? Quand est-ce que vous étiez...
Le déni, c'est-à-dire que je vais m'en sortir tout seul, je ne suis pas malade alcoolique, je bois un peu excessivement, je suis un gros buveur. mais j'ai pas de problème, j'ai pas de problématique avec l'alcool. Ben ça, c'est pas vrai.
Ah, d'accord. Donc vous avez conscience que vous buviez, mais vous avez tendance à minimiser les conséquences.
Exactement.
Même malgré votre femme, j'imagine, qui vous a quitté pour ça, à cause
voilà,
de ça.
Voilà, tout à fait. À cause de ça.
Même ça, ça vous a pas secoué un peu ?
Non.
Ah, c'est terrible.
Ça a été même mon ancien employeur. Il a été très sympa avec moi. Il m'a alerté une fois, deux fois, trois fois. Il m'a ramassé. Il me considérait un peu comme sa famille, comme son fils. Mmh. Et au bout d'un moment, il m'a dit, Charles, je ne peux plus vis-à-vis des autres, des collègues, de moi, de la société. Je ne peux plus. Je te lâche.
Ouais. Donc, il y avait quand même largement de quoi comprendre, mais vous aviez des œillères à ce moment-là.
J'avais complètement des œillères.
Vous avez fait l'autruche, quoi.
Voilà. Ah ouais. Ouais. En fait, c'est la solution la plus simple. Hein. C'est de continuer dans le délire qu'on a dans la tête.
Jusqu'à ce qu'on coule. Ouais.
Jusqu'au moment où on touche son fond. Mmh. Et j'ai touché mon fond. Et après, j'ai décidé de partir en cure. Je me suis dit bon, là, j'ai commencé à faire beaucoup de dégâts autour de moi. J'en fais sur moi, sur ma propre personne. Maintenant, c'est soit le caniveau, le cercueil ou ce que vous voulez, oui. Ou alors je me relève parce que j'avais de la famille. Mon frère ne voulait plus me voir. Enfin, j'étais coupé du monde. Tout le monde ne voulait plus me voir.
Et vos enfants ?
J'étais une loque. Ils ont été protégés parce que leur mère est partie. En fait, on s'est quittés. Elle m'a dit, écoute, tu te débrouilles, tu te soignes, mais moi, je prends les enfants et je les préserve.
Et aujourd'hui, vous êtes en contact avec eux ?
Bien sûr.
Ah oui, oui. Ils ont quel âge ?
Oui. 21. Ce sont des jumeaux, garçons et filles.
Donc, 21 ans. Le lien n'a pas été détruit ?
Le lien n'a pas été détruit, non. Ils avaient 11 ans à l'époque, à peu près. Une dizaine de... Non, un peu moins. C'était en 2010, oui. Une dizaine d'années. Et puis, bon, les enfants ne sont pas dupes non plus. Ils s'en aperçoivent.
Bien sûr.
Mais je pense que leur mère a eu un très, très bon réflexe, même si elle m'a laissé tout seul dans mon problème. Elle m'a dit, c'est ton problème, tu le règles. Mais moi, je protège les enfants et tu vas te soigner.
Est-ce que vous avez pu en parler avec eux de ce chemin, de cette évolution, de tout ça, de ce problème ?
Ah oui, oui, tout à fait. On a un discours très ouvert. Et puis,
c'est chouette,
et donc, c'est par le dialogue, la parole, que j'ai pu mettre des mots sur mes mots, M-A-U-X.
Ouais.
Et c'est grâce à ça. Et c'est pour ça que je vais tous les jeudis soirs à cette réunion que j'anime, parce que je suis aussi animateur, et j'écoute les gens qui sont dans l'alcool, dans un parcours de soins, qui sont déjà guéris. Alors on est entouré de personnes qui sortent de cure, des personnes qui ont 6 mois d'abstinence, qui rechutent, parce que ça existe aussi, la réalcoolisation, les rechutes, c'est un parcours qui est très difficile.
Oui, bien sûr. Mais la rechute, la rechute permet aussi de savoir où on en est dans sa motivation. On peut la prendre comme un deuxième tremplin.
C'est un tremplin, c'est une expérience. C'est pour ça qu'on ne va pas se focaliser sur une réalcoolisation, mais il faut tout de suite mettre les choses en place.
Exactement.
C'est-à-dire voir un addictologue, ouais, un psychiatre ou un psychologue et le groupe de parole. On parle de trépied dans notre association. Et avec ce trépied, eh bien, on occupe la semaine, on parle, on crève l'abcès. Et petit à petit, on fait son chemin.
Ouais. Et vous en êtes où, alors, vous, sur le plan de l'alcool et de la santé ?
C'est-à-dire que moi, ça a été très dur il y a 11 ans, il y a 12 ans, parce que j'ai eu une pancréatite. Donc, je suis resté 3 mois à l'hôpital et je pensais avoir été sevré. Et en fin de compte, même sans alcool pendant 3 mois, au bout de 15 jours, à peine 15 jours, au bout d'une semaine, j'avais reconsommé l'alcool. Donc, je n'avais rien compris au problème.
Mm.
Donc, c'est une maladie qui est psychologique aussi. Hein. C'est pas que physique. On peut être sevré physiquement. Si on ne travaille pas le cerveau, la tête, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On replonge systématiquement. Et bon, je ne vais pas vous dire, quand ça fait bientôt 12 ans d'abstinence, j'ai eu quelques coups de canif au contrat, des réalcoolisations momentanées, mais là, je parle au nom de l'association, et si je parle en mon nom, je suis abstinent d'à peu près une bonne dizaine d'années.
D'accord.
Et je vis comme une personne normale, j'ai fêté mes 50 ans hier.
Mm-hmm.
Il y avait...
Bon anniversaire.
Merci beaucoup, Sabine. Il y avait de l'alcool pour les convives, les proches, etc. Et moi, j'étais au jus d'orange et à l'abattoir. et on arrive à vivre, c'est ce qu'il faut passer comme message, on arrive à vivre normalement, à faire la fête, on n'a pas toujours les mêmes délires que ceux qui ont consommé beaucoup, parfois on se sent un petit peu isolé de certains groupes, mais on vit normalement notre vie qui nous appartient, qui est sans alcool.
Et j'allais même dire, non seulement ça, non, c'est pas qu'on vit normalement, c'est qu'on vit tout court.
On vit tout court, tout à fait, voilà.
Et oui, au lieu de se détruire.
Et c'est vrai que Jérémy, je l'ai pris un peu en cours, cette discussion que vous avez eue, le dialogue. J'ai été diagnostiqué bipolaire aussi.
Ah oui,
même. Voilà, tout à fait. Ah, et d'accord. Je ne suis pas le seul au sein de la Réunion, on est quelques-uns et quelques-unes à être diagnostiqués bipolaires. Alors, il y a plusieurs niveaux dans la bipolarité.
Tout à fait.
Je prends mon petit cachet tous les matins pour réguler mon humeur. Ça peut durer des mois, ça peut durer des années, ça peut durer une vie, ce traitement. Et je vois un psychiatre 3 fois par an qui me renouvelle mon ordonnance et avec qui j'échange.
Ouais,
voilà, absolument. Ouais.
Mais vous êtes, à la différence de Jérémy, vous vous êtes vraiment pris en main et vous avez réussi à vous entourer des bonnes personnes. Lui, il a du mal à trouver pour l'instant, je pense, des gens qui l'aident vraiment.
Alors, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas fermer la porte aux associations.
Et oui,
si ça ne marche pas avec une, il faut persévérer. Il faut persévérer, ça marchera peut-être avec une autre. Avec ou d'autres gens, mais j'ai trouvé vraiment j'ai trouvé des gens qui étaient à l'écoute, qui donnent du soutien, qui donnent de l'espoir. Excusez-moi. J'étais au fond du trou moi à cette époque-là. Hein. J'étais au fond du trou, je voyais plus, je ne savais pas comment m'en sortir. Comme j'étais un peu réfractaire au corps médical, j'ai tout reporté sur le groupe de parole. Et maintenant, j'aide les autres à s'en sortir et c'est un travail de longue haleine, on va dire.
Mais je suis persuadée qu'en plus, le fait de devenir aidant à votre tour, ça va aussi vous aider, vous, à conforter.
Ah, mais ça m'aide, c'est pour ça.
Ça consolide les acquis, en fait. Hein.
Absolument, absolument, c'est une piqûre de rappel toutes les semaines.
Et oui, forcément.
Pas oublier d'où on vient. Je ne vais pas dire que c'est une béquille, mais pour moi, c'est devenu une nécessité et un plaisir en même temps.
Oui, parce qu'en plus, en transmettant tout ça, vous devenez aussi un exemple et ça vous aide à maintenir cet équilibre en vous disant je ne peux pas leur montrer un exemple défaillant.
Ah non, c'est vrai. C'est
ça
qui m'aide aussi.
Mais oui, bien sûr.
Oui. Alors, certains des amis ont quitté le groupe après avoir été soignés. Parce que on parle de buveurs guéris, même si pour moi on est malade alcoolique jusqu'à la fin de ses jours, parce que il suffit de retoucher ou d'avoir un moment une contrariété ou autre, et le cerveau se rappelle de tout.
On va dire que la maladie, on arrive à l'endormir, mais pas à la tuer.
Ah,
et
jamais.
Et qu'un simple verre la réveille.
Ah, complètement. Et ça, j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience, je me croyais pas plus fort que tout le monde, mais je me suis dit, c'est bon, avec 6 mois, 1 an ou 2 ans, tu peux t'octroyer une petite bière. Eh bien, non, ça rappelle. Et puis après, on se retrouve au point où on a lâché.
C'est comme la cigarette, c'est exactement pareil.
Ben voilà, c'est un combat.
Comme vous dites, on l'a à vie, mais c'est endormi, il ne faut jamais aller la réveiller.
Ah non, tout à fait, oui. Et ces personnes-là qui font partie des groupes de parole, comme on partage la même expérience, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de... Enfin, moi, je parle au nom de Vie Libre. Il y a d'autres associations qui font un travail extraordinaire aussi. Mais c'est vrai que de parler, il y a tellement d'émotions qui passent au travers de témoignages, que ce soit l'entourage qui ont subi les dégâts d'un malade alcoolique ou que ce soit la personne elle-même qui a un problème, eh bien, elle se sent écoutée, elle se sent comprise, cette personne, et ça fait beaucoup de bien.
Oui. En tout cas, en ce qui vous concerne, Charles, demandez-vous quand même pourquoi un jour vous avez pensé que vous ne méritiez pas d'être heureux. Et surtout maintenant, dites-vous chaque jour le contraire. Dites-vous à quel point vous méritez le meilleur.
Ah, mais je profite maintenant de chaque moment, de chaque seconde que la vie m'offre. Hein.
Bon.
Mais pour clore le sujet, on m'avait proposé une psychothérapie pour mettre le doigt là où ça où ça faisait mal. Et j'ai fait quelques séances et puis je me suis dit, après tout, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir pourquoi ?
Si vous n'en ressentez pas le besoin, non, bien sûr que non.
Ben voilà, c'est un débat qu'on ouvre parfois à l'association, en réunion.
Oui, je comprends.
Et aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Peut-être que plus tard, je chercherai vraiment les causes.
Vous avez entièrement raison, ça peut être une question de timing ou de personnalité. Il y a des gens qui préfèrent aller vers la solution que chercher la cause. Et si ça fonctionne, si ça fonctionne, tant mieux.
Moi, je me sens épanoui comme ça.
Alors, c'est très bien, et vous avez raison aussi. Peut-être qu'un jour, j'aurai besoin de me retourner et de comprendre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
C'est pour ça que je viens par la porte. Voilà, je reste ouvert à, pourquoi pas, une autre psychanalyste plus tard.
Puisque vous avancez quand même, c'est très bien. C'est très bien.
Oui, j'avance, je construis, je continue à construire. Voilà.
Formidable, merci pour votre témoignage, Charles, vraiment.
Merci beaucoup, Sabine, et puis je souhaite beaucoup de courage à Jérémy, aux autres auditeurs et auditrices qui ont ce même souci.
Merci beaucoup.
Il y a des solutions.
Et encore bravo et bon anniversaire à vous.
Merci beaucoup, Sabine.
Un gros bisou à vous, Charles. Au revoir.
Également, au revoir.